France Inter.
Aujourd'hui, dans Cyberpouvoir, les réseaux sociaux, ces objets politiques et géopolitiques si mal identifiés, avec Marie Pelletier, professeure et spécialiste des complotismes.
La personne complotiste, c'est une militante qui adhère à une vision du monde. C'est pas juste celle qui va croire aux trucs les plus farfelus, les Illuminati ou que sais-je. C'est aussi la personne lambda qui va dire « moi, je crois plus les médias ». Et ça, Dieu sait qu'il y en a beaucoup.
Je suis Asma Malin et mon job à moi consiste à décrypter les nouvelles formes de pouvoir et de puissance qui sont en train de se recomposer actuellement autour de la question technologique. Et chaque semaine, nous allons nous plonger dans une grande affaire pour tirer méticuleusement le fil de cette histoire, lever le voile sur ce qui est en train de se jouer en coulisses, déchiffrer ensemble les enjeux politiques, géopolitiques qui s'affrontent et qui nouent le cœur de ces nouveaux jeux de pouvoir et de puissance de ce début de 21e siècle. Et aujourd'hui, cette affaire, c'est l'affaire Cambridge Analytica. Cyberpouvoir sur France Inter, c'est parti.
Il y a une entreprise qui s'appelle Cambridge Analytica qui a participé à la campagne de Donald Trump pour la présidentielle américaine, qui est accusée d'avoir siphonné les données de dizaines de millions d'utilisateurs de Facebook sans leur consentement. C'est une entreprise, un sous-traitant de Cambridge Analytica, qui a créé en 2014 un quiz. À l'époque, il est possible de récupérer non seulement les données personnelles des gens qui répondent à ce quiz, mais également de tous leurs amis. C'est pour ça qu'ils ont réussi à récupérer autant de données. On est passé très rapidement d'un scandale Cambridge Analytica à un scandale Facebook. Pourquoi ? Parce qu'à l'époque des faits, Facebook autorise parfaitement cette aspiration de données personnelles. Du coup, on accuse Facebook d'avoir laissé faire et de ne pas avoir suffisamment protégé les données personnelles des utilisateurs.
Cyberpouvoir, Asma Mala sur France Inter.
L'affaire du jour, c'est donc Cambridge Analytica. Combien de documentaires, d'émissions, d'articles, de livres, de films ont été dédiés à l'affaire ? Ça reste à ce jour le grand cas d'école. Parce que c'est le premier scandale, le grand cas de l'histoire des réseaux et même, je dirais, d'Internet, qui symbolise à ce point les dérives, les manipulations, les failles du système. Et cette affaire, en substance, c'est quoi ? D'un côté, on a tout un tas de données illégalement captées par un certain Alexander Kogan, chercheur russe et vendu à Cambridge Analytica. De l'autre côté, on a donc cette société britannique, Cambridge Analytica, qui a réussi à agréger toutes les données récoltées, personnelles ou pas d'ailleurs spécialement personnelles, mais qui ont toujours présenté un intérêt électoral pour manipuler les électeurs par le biais de messages, les ciblant spécifiquement en fonction de leur profil psychologique sur les réseaux sociaux, Facebook en tête à l'époque. Et c'était d'ailleurs surtout au profit d'un certain Steve Bannon, un des grands idéologues de l'alt-right américaine, l'extrême droite américaine, qui alors était en charge de la campagne présidentielle de l'inénarrable Donald Trump. Et en guest star de l'affaire, on retrouve Mark Zuckerberg, celui qui n'a sans doute rien voulu savoir. Mais Facebook était au courant de cette collecte des données pas très nettes dès 2015.
Monsieur Zuckerberg, il s'agit d'une séance du conseil de discipline. Vous êtes accusé d'avoir intentionnellement forcé la sécurité, violé les règles du copyright, violé les lois sur la vie privée avec votre site web www.facemash.com. Vous êtes également accusé d'avoir enfreint le règlement de l'université sur la diffusion des images numériques.
Et je me souviendrai toujours de ces séquences malaisantes de Mark Zuckerberg qui présentait de plates excuses désincarnées devant le Sénat. Et last but not least, le fameux chercheur russe, le fameux Alexander Kogan, qui aurait été à la botte du Kremlin. Franchement, tous les ingrédients du thriller politique sont là. Donc si on résume, Cambridge Analytica, c'est quoi ? C'est trois choses. La première, c'est que tout d'un coup, on se rend compte de la possibilité du potentiel de manipulation personnalisée de masse. Écoutez bien cet oxymore. Personnalisé de masse et le micro-ciblage politique de chaque électeur potentiel à des fins électorales. La deuxième chose, c'est une affaire d'ingérence étrangère. Christopher Wiley, l'un des lanceurs d'alerte de l'affaire, va affirmer que Cambridge Analytica, je cite et j'ouvre les guillemets, « utilisait des chercheurs russes qui avaient partagé des informations avec des entreprises et des cadres liés au FSB, les services de sécurité russes ». Enfin et surtout, c'est la prise de conscience collective du rôle stratégique de nos données personnelles. Ces données, qui sont parfois sensibles, que malgré toutes les réglementations du monde, on va tous quand même lâcher dans la nature du cyberespace, par confort ou par ignorance, ou les deux à la fois. Ce que vous mangez, ce que vous regardez, achetez, likez, sharez, followez sur Internet, est gardé et a une portée hautement politique. Bref, chaque citoyen, vous, nous, moi, sommes une cible, donc des acteurs de ce qui se joue à l'insu de nous-mêmes, sur nos réseaux sociaux, mais surtout dans nos cerveaux.
L'affaire Cambridge Analytica. Les réseaux sociaux, ces objets géopolitiques mal identifiés.
Et alors, me demanderez-vous, et à juste titre, ce scandale nous dit quoi de ce que sont les réseaux sociaux dans le fond ? Ce sont des espaces publics, mais qui sont aussi des entreprises privées. Et ça, c'est un énorme paradoxe. Ce sont aussi des espaces de lutte géopolitique et de confrontation idéologique. C'est la fameuse militarisation des réseaux sociaux, c'est-à-dire que tout d'un coup, ces espaces deviennent des outils de la guerre hybride. Et enfin, ce sont des espaces d'influence politique. Le cas de Elon Musk rachetant Twitter en est l'ultime preuve, s'il en fallait.
Twitter est devenu, qu'on le veuille ou non, une sorte de place du village où chacun doit avoir la possibilité de parler librement tant que c'est dans les limites du cadre légal.
Et avec tout ça, est-ce que les réseaux sociaux sont, dans le fond, devenus antidémocratiques ? Peut-être. Dans leur forme actuelle en tout cas, ils sont, oui, nervurés de failles. Failles de modération, ingérence étrangère, désinformation à échelle industrielle, amplification des polarisations. C'est-à-dire qu'on va essentiellement brutaliser le débat public, vous allez être essentiellement exposé à des contenus radicaux, aux émotions négatives qui vont, dans le fond, brutaliser le débat public. Mais surtout, il pose sur la table de notre discussion collective un doute philosophique majeur. Qu'est-ce que doit être désormais la liberté d'expression, son cadre, ses limites, à l'heure des réseaux sociaux ? Bref, vous voyez où je veux en venir. Nos vieilles démocraties occidentales ne maîtrisent plus tellement leur modèle politique. Et Cambridge Analytica, c'est pour moi le symbole de tout ça. C'est une bascule qui va marquer la fin de nos utopies initiales, de l'idéal qu'on avait eu autour d'Internet, qui va marquer, dans le fond, le retour au réel, distordu par ces fameuses manipulations politiques. En définitive, les réseaux sociaux nous donnent à voir une facette inédite de ces nouvelles formes de pouvoir, de cyber-pouvoir. Et dans nos démocraties déjà si fragilisées, ces espaces risquent d'ailleurs de devenir des accélérateurs insurrectionnels, des coefficients multiplicateurs, des complotismes, des séparationnismes. Rappelez-vous l'invasion du Capitole en 2021, les émeutes de Brasilia en 2023, plus récemment encore en France, les émeutes récentes. Et c'est pour discuter de ce point-là précis, le risque complotiste augmenté de la technologie, que j'ai eu très envie d'inviter sur Inter, Marie Pelletier, l'une des plus grandes spécialistes de la question complotiste.
Leave them kids alone.
C'était Pink Floyd sur France Inter. Vous écoutez toujours Cyberpouvoir. Et on parle des réseaux sociaux, ces étranges objets politiques.
France Inter. Asma Mala. Cyberpouvoir.
Je suis très heureuse de recevoir Marie Pelletier dans Cyberpouvoir. Marie, vous enseignez l'histoire, vous êtes professeure à la Haute École Galilée de Bruxelles. Vous écrivez, réfléchissez inlassablement au ressort du, ou je devrais dire des complotismes, que je crois on ne comprend toujours pas encore très bien. Marie Pelletier, bonjour.
Bonjour, merci pour l'invitation.
Commençons donc par bien nommer les problèmes. Quelle différence entre complotisme, conspirationnisme, dérive sectaire ? Quelle définition apporteriez-vous à ces terminologies-là pour qu'on y voit un tout petit peu plus clair d'abord ?
Ouais, on est rentré dans une confusion de plus en plus grande ces dernières années qui a été aussi parallèle à une récupération politique de l'étude du complotisme. Le complotisme et le conspirationnisme, ce sont pas deux choses vraiment différentes. Traditionnellement, dans le monde francophone, on parle plutôt de complotisme. Le terme conspirationnisme vient plutôt du monde anglo-saxon. Et on pourrait dire que globalement, en tout cas, moi je le définis comme ça, le complotisme, c'est un imaginaire de la défiance à l'égard de ce qui est perçu comme la parole d'autorité en démocratie, qu'elle soit politique, médiatique, scientifique, évidemment, on l'a vu avec le Covid aussi. Donc ça, c'est, pour moi, c'est vraiment un imaginaire politique et donc c'est un imaginaire global à étudier comme tel, comme un discours politique. Malheureusement, aujourd'hui, enfin je dis malheureusement évidemment parce que c'est mon opinion, il y a eu un petit peu une récupération de cet objet politique pour faire rentrer dans le même champ sémantique à peu près tout et n'importe quoi, avec des notions comme radicalisme, radicalité, dérive sectaire, etc. C'est-à-dire qu'on affuble le complotisme de toutes sortes d'autres dérives qui existent, bien évidemment, les dérives sectaires, ça existe, la radicalisation aussi, qu'elle soit djihadiste ou autre d'ailleurs, mais ce n'est pas forcément corrélé en fait au complotisme ou au conspirationnisme. Et aujourd'hui, malheureusement, on a une tambouille terminologique qui fait que beaucoup de gens n'y voient plus très clair, et c'est normal. Parce que, oui. En fait, les experts eux-mêmes ne sont parfois pas tout à fait au clair sur les termes et sur leur sens.
Pour que simplement nos auditeurs comprennent un peu mieux, quelle différence, concrètement, avec une dérive sectaire qui mobilise aussi un imaginaire, par exemple ?
Oui, alors je pourrais d'ailleurs commencer par la ressemblance, c'est une logique de rupture. Ça, c'est quelque chose qui peut relier le complotisme à l'adhésion à un discours sectaire. Maintenant, le complotisme, c'est quelque chose d'à la fois beaucoup plus précis et en même temps différent de l'embrigadement sectaire. Précis pourquoi ? Parce que le complotisme, c'est une défiance pas à l'égard de tout et n'importe quoi. Historiquement et dans nos sociétés, c'est une défiance à l'égard de la démocratie et des mouvements d'émancipation et d'égalité. C'est postuler qu'en fait, toutes les évolutions sociales et sociétales sont en fait au service d'un système, avec un grand S si je puis dire, et que ce système est dirigé par une main ourdie, c'est-à-dire qu'il y a une, il y aurait une petite minorité cachée qui tirerait les ficelles de ce système. Ça, c'est vraiment l'imaginaire complotiste ou conspirationniste. Est-ce que ça peut entraîner vers des dérives sectaires ? Oui, parfois. Mais en fait, il y a aussi notre voisin, notre tonton, etc., qui n'est pas forcément quelqu'un qui est embrigadé dans une secte dans la mesure où il va bosser, où il a une vie sociale tout à fait normale, et qui va rentrer dans une logique de rupture par rapport à ce système démocratique, ou ce qu'il perçoit en tout cas comme le système démocratique, parce qu'il va être imprégné cet imaginaire de la défiance, c'est-à-dire de postuler qu'en fait la parole politique et médiatique n'est qu'un leurre, et n'est qu'un leurre au service des intérêts cachés. Mais je pense que confondre les deux, c'est souvent rentrer dans une espèce de psychologisation du complotisme, alors qu'en fait, dans le complotisme, on est surtout dans l'adhésion à un imaginaire politique. La personne complotiste, c'est une militante qui adhère à une vision du monde. Et elle peut y adhérer à des degrés divers aussi. C'est pas juste celle qui va croire aux trucs les plus farfelus, les Illuminati ou que sais-je. C'est aussi la personne lambda qui va dire « moi, je crois plus les médias ». Et ça, Dieu sait qu'il y en a beaucoup.
Exactement. Et vous parlez justement d'une logique, disons, militante. Est-ce que, parce que justement cette défiance-là semble grandir, semble d'ailleurs être encouragée par la viralité sur les réseaux sociaux, est-ce que vous diriez qu'on court le risque d'entrer dans une logique insurrectionnelle ?
Alors oui et non, je suis devenue extrêmement prudente sur cet aspect parce que justement il y a une récupération politique qui aujourd'hui récupère cette lecture des choses qui a une partie de vérité, je vais y venir après, pour discréditer les mouvements sociaux. Et ça, je pense qu'il faut vraiment être extrêmement vigilant, surtout dans un contexte français extrêmement tendu ces derniers mois, où finalement, on voit que le gouvernement français, mais c'est valable dans d'autres pays, mais en France, c'est souvent plus caricatural qu'ailleurs, désolé, c'est la Belge qui parle aussi, qui va utiliser cette idée de conspirationnisme, de discours de rupture, d'imaginaire insurrectionnel pour discréditer la critique sociale, pour discréditer la critique politique. Ça, il faut faire extrêmement attention. Par ailleurs, il est extrêmement clair que la logique complotiste peut mener à une logique insurrectionnelle parce que dans la mesure où on ne croit plus en la démocratie, où on pense que c'est un leurre, évidemment qu'il y a des passages à l'acte, comme il y a eu au Capitole, bien évidemment. On a vu aussi l'exemple brésilien. On a vu aussi en France le mouvement des Gilets jaunes qui était en grande partie baigné de cet imaginaire insurrectionnel quand il y a eu cette idée de monter sur l'Élysée, etc. Bon, ça n'a pas abouti, mais l'imaginaire était présent, c'est-à-dire l'imaginaire de rupture, de rejet, voire de violence. Donc, moi, ça fait des années que je parle de cette menace. Je sais qu'elle existe. Maintenant, quand on s'en sert pour discréditer les mouvements écologistes, les mouvements féministes, les mouvements antiracistes, comme c'est le cas actuellement, en fait, on ne combat pas le complotisme, on le nourrit. Et ça, c'est vraiment ce qui est en train de se passer, malheureusement, dans le débat public, ce qui rend la parole d'expertise sur le complotisme extrêmement périlleuse, en fait.
Donc, d'une certaine façon, il y a une instrumentalisation politique. Et donc, est-ce que c'est une mauvaise compréhension ou est-ce que c'est vraiment une instrumentation volontaire de cette question-là ?
Je pense qu'il y a les deux. Je pense que d'abord, il y a beaucoup de confusion et les politiques ne sont pas forcément des experts et c'est normal dans ces questions et qu'il y a parfois beaucoup de confusion, parfois de bonne foi. Par exemple, entre ce qui relève du complotisme ou ce qui relève de la critique sociale ou bien ce qui est populisme, par exemple, qui est aussi un terme qu'on utilise à tort et à travers aujourd'hui. Donc, je pense qu'il y a vraiment de la vraie confusion, de la méconnaissance, mais il y a aussi de l'instrumentalisation, qu'elle soit tout à fait consciente ou pas, j'en sais rien, ça je m'avance jamais là-dessus. Mais en tout cas, il y a des intérêts politiques, bien évidemment, à faire passer des manifestants pour des complotistes, des insurrectionnels, etc. Ça permet de légitimer une répression à leur égard. Ça, c'est très clair. Il faut faire très, très attention. Parce que là, quand on rentre dans cette logique-là, on imite les dictatures, parce que les dictatures ont toujours fait ça. C'est-à-dire appeler les opposants, des gens qui les menacent, pour les discréditer, donc discréditer l'opposition politique. Et il faut faire extrêmement attention actuellement dans le contexte politique.
Donc en réalité, cette ambiguïté sur les termes et sur le diagnostic, en réalité, fragilise davantage les démocraties qu'elle ne les protège. Si on reprend la doctrine insurrectionnelle, en général, c'est quoi ? On va départager la population en trois grandes parties. La minorité active révolutionnaire, ou celle qui porte un combat. La minorité réactive, celle qui va tout faire pour défendre le système en place. Et puis, la majorité silencieuse, le ventre mou, qui est en fait l'enjeu pour la minorité active ou la minorité, disons, réactive. Et celle qui, moi, me pose énormément de questions, c'est cette majorité, cette léthargie-là au milieu, dont je ne vois pas bien comment est-ce qu'elle est mobilisable aujourd'hui politiquement, et on le voit à peu près sur tous les sujets.
Oui, c'est très juste, parce qu'en fait, on a une société qui, paradoxalement, se dépolitise beaucoup depuis, en fait, une trentaine d'années. On a une crise du récit politique collectif. En fait, le complotisme n'est simplement que le symptôme de ça, soyons clairs. Et donc, on a une absence de récit, donc en fait, une absence de projet politique, soyons clairs. Et on a deux tentations, on pourrait dire extrêmes, effectivement. Soit le rejet de la démocratie, dont sont porteurs les complotistes, dont ont été porteurs aussi les djihadistes, dont on parlait beaucoup il y a 5 ans, on en parle un petit peu moins maintenant. Et puis, sur les réseaux sociaux, on les voit, les partisans du président français, par exemple. Parfois, je trouve qu'ils sont extrêmement ressemblants aux conspirationnistes, en fait, dans leur discours et dans leur radicalité, entre guillemets, même si maintenant j'utilise tous ces termes avec précaution. Et c'est pour ça, moi, que je dis toujours qu'il faut prendre les complotistes au sérieux et que je reproche énormément à l'anticomplotisme de les ridiculiser, de les prendre pour des débiles et tout. Non, je suis désolée, eux, ils proposent une réponse politique, ils proposent un récit politique. Et les partisans de Macron aussi, quelque part. Ils adhèrent à un projet, ils le défendent. Alors, je ne suis pas d'accord avec eux, mais quelque part, je leur laisse ça. Ce sont des militants, ils savent pourquoi ils se battent. Le problème, c'est tous ceux entre les deux, effectivement, qui ne savent plus pourquoi ils se battent, et notamment dans les chercheurs, les journalistes, etc. Et là, je parle de mon milieu, on va dire, dans notre milieu, où on s'est un petit peu vautré, il faut quand même bien le dire, depuis pas mal de temps aussi, dans une espèce de dogme de la neutralité, de la non-position, on est expert, on n'a pas d'avis, enfin on a d'avis sur rien, alors qu'en fait on a un avis sur tout, en plus c'est tout à fait hypocrite. Et donc on n'assume pas en fait cette recherche de vision et de récit qui est complètement fondamentale. C'est pour ça que moi, dans mon travail, j'assume beaucoup cet aspect de vision finalement, parce que je suis persuadée que la réponse à ce qu'on peut appeler maintenant les phénomènes de radicalisation, même si, encore une fois, je suis très précautionneuse, la réponse, en tout cas, c'est une réponse politique. Ça, je suis persuadée. Ce ne sera pas une réponse
réglementaire ou coercitive.
Exactement, ce qui est la grande tentation, bien évidemment.
Marie Pelletier, merci beaucoup. On reprend la conversation dans 3 minutes.
Les enjeux technologiques d'aujourd'hui, les enjeux politiques de demain. Cyberpouvoir sur France Inter.
Qu'est-ce qu'on est beau sur la photo ? Qu'est-ce qu'on est beau sur les réseaux, chérie ? T'as vu les gens comme ils sont jaloux de nous ? Tous mes biens sont les tiens, et tous tes biens sont les miens aussi. On a tout pour aller bien, mais les biens ça fait pas tout du tout. Je me demande pourquoi on est encore ensemble, nous deux. Non, c'est même pas vraiment. Oui, toi et moi, on devrait peut-être s'arrêter là. C'est mieux, vu qu'on s'aimait pas vraiment. Qu'ils sont bizarres, tu crois vraiment à leur histoire, toi? Moi, je crois pas que ça va faire long feu. J'avoue, bientôt ça fera 5 ans, mais ils font de la peine à voir, non? Je crois pas qu'un jour ils s'échangeront leurs vœux. Je me demande pourquoi vous êtes encore ensemble, vous deux. Non, c'est même pas vraiment. Oui, lui et toi, faudrait peut-être s'arrêter là. C'est mieux, vous vous aimez pas vraiment. Je l'ai dans mes pensées, mais bien sûr je voudrais l'épouser. Ben justement je devais lui dire mardi. Genou à terre, j'allais la demander. Avant que je l'ouvre, elle s'est excusée. J'étais tellement choqué quand elle m'a dit. Je me demande pourquoi on est encore ensemble, nous deux. Non, je ne sais même pas vraiment. Oui, toi et moi, on devrait peut-être s'arrêter là. C'est mieux, vu que je t'aimais pas vraiment.
Et on est toujours en compagnie de Marie Pelletier, professeure d'histoire et spécialiste des complotismes.
France Inter, Asma Mala, Cyberpouvoir.
Marie, j'aimerais en fait vous faire réagir sur un constat, moi, que je vois, qui est vraiment en train d'émerger aux États-Unis, qui a un tout petit peu de mal à cranter ici en Europe et en tout cas en France. C'est la question de la convergence entre les ingérences étrangères, les campagnes de désinformation et d'influence, essentiellement russes et d'ailleurs chinoises, qui viennent en fait converger avec les mouvements conspirationnistes complotistes et qui donc récupèrent ces narratifs-là, la question de l'Ukraine, la question de Taïwan, etc., pour venir en fait augmenter l'intensité du récit, pour le coup, et de l'imaginaire complotiste. Et enfin, le troisième angle de ce triptyque, de cette convergence-là, ce sont en fait les idéologies des techno-idéologues type Elon Musk, qui, sous prétexte d'une vision maximaliste d'un Twitter ou d'un réseau social, vont en fait permettre la foire d'empoigne et donc de donner une caisse de résonance, une viralisation, on va dire, artificielle de ces discours-là et donc de recruter tout simplement.
Oui, ce qui est intéressant, c'est qu'on a déjà eu les prémices de ça, finalement, dans le début des années 2010. Moi, j'ai beaucoup étudié les printemps arabes. Les printemps arabes, c'est aussi un phénomène politique qui a énormément profité des réseaux sociaux dans un premier temps, c'est-à-dire qui a connu son expression à travers les plateformes, et puis qui a connu aussi, quelque part, sa répression par l'intermédiaire des plateformes. Je pense qu'on oublie un peu trop souvent cette espèce de double mouvement qu'il y a eu au début des années 2010, où à la fois, ça nous montrait une voie vraiment démocratique, pour le coup, où on avait, en dictature, des militants politiques qui voulaient défendre un projet démocratique et qui utilisaient les plateformes à des fins démocratiques, de dénonciation de la répression, etc., et de documentation des manifestations. Et en fait, en face, qu'est-ce qu'ils ont eu ? Les trois dimensions de ce triptyque que vous venez d'évoquer, c'est-à-dire qu'ils ont eu à la fois évidemment la propagande des dictatures qui était extrêmement puissante et qui a diffusé son récit à travers à peu près la planète entière. Il y a eu évidemment aussi l'appui des conspirationnistes qui étaient déjà très forts en fait à l'époque et donc qui ont appuyé le narratif des dictatures à ce moment-là. Et puis il y a eu aussi l'appui tacites des plateformes qui ont de plus en plus favorisé les discours conspirationnistes, pro-dictature, etc. Et en fait, c'est terrible à observer avec le recul, parce que je pense qu'on est largement passé à côté du truc à ce moment-là. C'est qu'en même temps qu'il y avait ce mouvement d'émancipation possible, les plateformes étaient en train de se retourner en partie, hein, pas complètement, contre l'émancipation, contre les mouvements démocratiques, et de devenir une arme, quelque part, de répression et au service des régimes autoritaires. Et au nom de la liberté d'expression. Et là, on en est vraiment au point Musk.
Absolument. Et d'ailleurs, je rebondis sur ce que vous venez de dire, parce que je voulais justement vous interroger là-dessus. J'ai lu, je crois, dans une de vos interviews, peut-être pour Le Monde, vous disiez... Le complotisme sur les réseaux sociaux sont en fait devenus des armes de guerre et contre les démocraties, voire une arme de dictature.
Ouais, parce que les démocraties ont 10 guerres de retard sur les dictatures, hein. C'est ça en fait le problème. C'est parce qu'en réalité, le complotisme comme arme de guerre, les dictatures ont compris ça dès l'entrée dans les années 2000, dès l'11 septembre 2001. Elles ont eu l'opportunisme politique de voir que les démocraties vivaient un moment de fragilisation très grand, avec le 11 septembre et avec toutes les politiques sécuritaires, etc., etc., et avec la massification du web, parce que c'était concomitant en réalité.
Absolument.
Et c'est à ce moment-là qu'elles ont commencé à nourrir la défiance au sein même des opinions publiques occidentales, parce qu'elles ont compris que c'était une opportunité pour imposer leur projet politique à l'international. C'est-à-dire que les dictatures, ce projet international, elles l'ont depuis très longtemps. Et nous, comme toujours, hein, enfin, je dis nous les démocrates, je suis un petit peu critique sur nous, mais c'est parce que c'est vrai. Il a fallu Trump pour qu'on se réveille. Parce qu'en fait, on a commencé à se réveiller à partir de 2017, pour moi. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, on a quand même saisi un truc, c'est-à-dire que ah mince, ce genre de discours qui circule sur Internet et tout, au final, ça peut quand même conduire un candidat au pouvoir de la première puissance du monde, en réalité. Et donc là, il y a eu, pour ça que je ne suis pas totalement négative non plus, je pense que depuis Trump, donc depuis 2017, il y a une tentative de réaction, de réponse, en réalité. Mais en même temps, on est comme tout le temps dépassé. Et Twitter est un bon exemple de ça avec Musk. Hein, parce que comment peut-on penser qu'on peut encore en faire un outil de lutte dans la mesure où il est déjà aux mains d'un acteur antidémocratique? Je veux dire, c'est vraiment une question politique assez fondamentale. Alors peut-être qu'on peut en faire un outil de lutte, mais le problème c'est que d'abord on subit l'offensive et puis après on réfléchit à comment est-ce qu'on pourrait faire. Et ça c'est vraiment le problème, c'est qu'en fait toutes ces offensives discursives, ce sont des offensives discursives, c'est en ça que je dis que c'est une arme de guerre.
Oui.
À chaque fois, au niveau démocrate ou au niveau progressiste je dirais, on est dans la réaction. On est dans « Ah merde, ils sont en train de nous doubler, alors qu'est-ce qu'on va pouvoir réfléchir comme réponse à ?» On n'est pas assez dans la proposition. Je parlais encore tout à l'heure avec une journaliste qui disait « Oh là là, sur TikTok, c'est incroyable le nombre de contenus pro-dictature, etc. etc. » Effectivement, c'est incroyable et c'est désastreux, etc. Mais on est seulement en train de se pencher sur la question « Tiens, comment est-ce qu'on pourrait faire pour ?» Alors qu'évidemment, le problème, c'est qu'on n'a pas de contre-discours à proposer.
Démocratie vérolée, ingérence, société civile affaiblie, bref, rébellion. En un mot, dans le fond, Marie Pelletier, pour vous, qui, quelle force domineront le 21e siècle?
Je ne me risque jamais à prédire l'avenir parce que c'est toujours compliqué, mais on est vraiment dans un contexte extrêmement ambivalent en réalité. C'est qu'à la fois on est dans un contexte où les forces réactionnaires sont très fortes dans nos sociétés, c'est-à-dire les acteurs proches de l'extrême droite, les acteurs pro-dictature, tous les acteurs qui voudraient revenir en arrière sur les droits des femmes, sur les droits des minorités, etc. Ils s'expriment, on les entend énormément. Mais en même temps, si on les entend de manière si virulente, c'est aussi que paradoxalement, et ça on l'oublie trop souvent, on a eu beaucoup d'avancées sociale depuis une ou deux générations. Sur la question de l'homophobie, sur la question, ben là, cette année, c'est les 10 ans du mariage pour tous en France, par exemple. Enfin, il y a eu, en fait, des avancées progressistes, mais on a du mal à capitaliser là-dessus. C'est pour ça que moi, j'essaye aussi de porter un discours un peu optimiste en réalité, ce qui est un peu paradoxal, mais je pense qu'il faut capitaliser sur nos victoires, ne pas oublier MeToo, ne pas oublier Black Lives Matter aux États-Unis, etc. Enfin, intégrer ça au récit, justement. Si on fait tout le temps comme si c'était déjà passé et que maintenant c'est la catastrophe, que tout le monde croit que Vladimir Poutine est génial, etc. En fait, on oublie nos victoires. Et quand je dis nos victoires, c'est les victoires progressistes et démocratiques au sens très large. Je ne parle pas d'un camp politique précis. Je pense que c'est extrêmement important et ça me donne pas mal d'espoir. C'est-à-dire que je pense que le 21e siècle, alors ça va être un siècle extrêmement tendu politiquement,
absolument,
ça c'est clair, mais je ne pense pas qu'on va reculer, en fait. Et je le dis aussi parce que je suis progressiste et que
que si en tant que progressiste, on devient nous-mêmes porteurs d'un discours réac en disant « Oh là là, c'est la catastrophe », je pense qu'il va avoir un petit problème au niveau des récits aussi, justement.
Marie Pelletier, merci infiniment de nous avoir éclairé ce matin dans Cyberpouvoir. Je ne saurais trop vous recommander l'un de ses meilleurs essais, « L'ère du complotisme », qui a été réédité l'année dernière. Marie, merci.
Merci à vous.
La semaine prochaine, on parlera d'intelligence artificielle et de quoi ? De futur de l'homme. Rien que ça, une question simple, une pétouille, que dis-je ? Une banalité. Et d'ici là, portez-vous bien !